Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans Inventaire à l'après-vert, un podcast qui vous parlera de personnes, de leur histoire, des objets qui les racontent, qui vous parlera également de l'art, des arts, de l'éducation et de la pédagogie. Bonne écoute! Chères toutes et chers tous, je vous espère en bonne forme, en meilleure forme, maintenant qu'enfin les températures sont plus douces et que la pluie est revenue à la plus grande satisfaction de la nature qui vraiment n'en pouvait plus. Et j'ai pu constater à quel point les oiseaux se réjouissaient qu'il y ait à nouveau des flaques d'eau. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener en fait dans une aventure, un grand voyage. Nous allons remonter les siècles, nous allons aller à la montagne. Nous allons beaucoup parler aussi de distillation, de liqueur, de vie monastique. En fait, c'est presque un roman que je vais vous conter. Et ce roman a pour héros des moines chartreux, une maison mère, celle de la Grande Chartreuse qui se trouve dans l'Isère, et des connaissances vieilles de plusieurs siècles s'agissant des plantes et de leurs vertus médicinales. Cette histoire a déjà nourri de nombreux auteurs, tant elle est fascinante, avec ce secret qui entoure le mystère de la fabrication des liqueurs. Mais au préalable, je voudrais commencer par ce qui m'a donné envie ce matin de consacrer un épisode, qui est également une chronique que je vous lis actuellement, à ces hommes ayant choisi un désert pour implanter leur première maison. Au printemps, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité, un vent de panique a soufflé sur les bars les plus en vogue des deux côtés de l'Atlantique. Les moines de la Grande Chartreuse venaient de prendre la décision de ne pas augmenter la production des différentes liqueurs qu'ils élaborent depuis 1840, car avant, il s'agissait exclusivement d'un élixir de longue vie dont la recette avait été transmise par le duc d'Estrées aux moines de la Chartreuse de Vauvert à Paris, en 1605, car les moines avaient la réputation d'être d'excellents herboristes. La Chartreuse verte, particulièrement, fait partie de notre histoire familiale. Nous l'avons toujours vue à la table familiale, plus précisément à la table maternelle, enfin toujours, par moments. En fait, notre mère aimait boire parfois, souvent le dimanche, après un bon déjeuner, un petit verre de chartreuse qu'elle boit encore aujourd'hui dans une sorte de petit godet en argent. En fait, très longtemps, je n'étais pas loin de penser qu'elle était l'une des seules femmes en France à consommer cet étrange breuvage. Par ailleurs, en fait, je suis très attachée à la chartreuse de Valbonne qui se trouve dans le Gard au fond d'un vallon, entourée de vignes et d'une grande forêt. Nous allions très souvent nous y promener avec Fantôme, notre berger australien, que nous avons perdu juste avant Noël. Ce site absolument unique abrite aussi une boutique dans laquelle sont vendus les vins du domaine, des liqueurs, des confitures ou encore des gâteaux provenant d'autres monastères. J'ignorais que la chartreuse verte était, depuis les années 1990, en vogue dans les bars. Le Tip and Top est un classique des soirées grenobloises à côté du Chartreuse Experience et du Chartreusito. L'une de mes anciennes patientes m'avait appris qu'à la montagne, son mari buvait des chocolats chauds rehaussés d'une rasade de chartreuse verte. Elle avait la gentillesse d'en rapporter à notre maman de leur séjour à Prapoutel-les-Sept-Clos, station familiale située non loin du monastère et de Voiron. À côté des cocktails, on trouve des shooters, je ne sais pas si je prononce correctement, qui sont des petits contenants de 5 à 10 centilitres, principalement utilisés pour consommer de l'alcool fort. Le shooter remonte à l'époque où, dans le Grand Ouest américain, les hommes se défiaient au comptoir des saloons, le plus fort étant bien sûr celui qui pouvait en boire le plus sans s'effondrer. En écrivant ces mots, mon esprit ne peut pas s'empêcher de se mettre en mode dernière séance, et de convoquer des images de ces nombreux westerns que j'ai vus avec notre père. J'imagine le pianiste arrachant des sons aigrelets à un instrument délabré, le patron derrière le comptoir, les entraîneuses en bottines et robes à jupons, et les hommes debout en attente du premier faux pas pour se jeter les uns sur les autres, tandis que dans la rue, des bourrasques de vent font danser poussière et paille. Pour revenir à notre maman et à sa consommation de chartreuse verte, la plus forte, elle est quand même à 55 degrés, je me dis qu'à force de sembler d'une autre époque, on finit par devenir carrément une influenceuse. Il est revenu à Emmanuel Delafont, président de la Chartreuse Diffusion depuis 10 ans, de s'expliquer sur la décision prise par les moines de stabiliser la production et de se lancer dans l'herboristerie. Le prieur général a eu cette phrase qui va dans le sens de l'écologie intégrale appelée de ses voeux par le pape François dans l'encyclique Laudato si. La croissance infinie n'est plus possible. Même si la demande augmente, les moines font le choix, toujours, de la sobriété heureuse. Ils sont avant tout tournés vers la prière et non vers la quête du profit. 1,6 million de bouteilles de liqueurs vieillies sont produites chaque année. La production des liqueurs végétales non vieillies, comme l'élixir végétal, pourra, lui, continuer éventuellement à augmenter. Le monastère subit aussi les effets du dérèglement climatique. Avec les épisodes de sécheresse, les trois moines en charge de la fabrication ont de plus en plus de mal à récolter les 130 plantes entrant dans la composition des liqueurs. L'ordre des chartreux est aussi touché par la crise des vocations. L'ordre ne compte plus que 450 moines dans le monde, dont 30 à vivre dans l'Isère. Et par ailleurs, c'est une communauté vieillissante. Mes recherches m'ont permis d'apprendre que les chartreux avaient leur homologue féminin, qu'on appelle aussi les chartreusines. En effet, vers 1145, les moniales de Prébaillon, en Provence, décidèrent d'embrasser la règle de vie des chartreux. Elles ont aujourd'hui deux maisons en France, une en Italie et une en Corée du Sud, et une en Espagne, actuellement rattachée à une maison française. Une fondation en Amérique latine pourrait voir le jour dans un futur encore assez lointain. Les moines de la Grande Chartreuse font le choix de revenir à ce qui a toujours été au cœur de leurs compétences, l'herboristerie. C'est pourquoi le duc d'Estrée avait confié le manuscrit de l'élixir de longue vie aux chartreux de Paris. Les moines vont renouer avec des choses plus fondamentales que la fabrication de produits utilisés à des fins désormais récréatives. Ils vont revenir aux soins, à la santé, aux plantes aromatiques et médicinales. Les moines sont récemment devenus agriculteurs. Avec les plantes, ils vont pouvoir réaliser des tisanes, mais aussi des produits un peu plus marqués soins et santé, comme l'aromathérapie, la gémothérapie. Il s'agit là d'une branche de la phytothérapie qui utilise les bourgeons et les jeunes pousses. La communauté s'est fixé un cadre pour 2030 et elle souhaite impliquer d'autres monastères. Dans les monastères, quels qu'ils soient, on a très vite su faire des choix judicieux pour parvenir à un équilibre financier. Les moines ont été ainsi parmi les premiers à recourir à Internet pour diffuser et vendre les produits monastiques en ligne. Les chartreux vont dans le sens de l'histoire et de ce qui est de plus en plus de tendance. Les revenus générés par leurs activités permettent à l'ordre de restaurer des biens anciens, mais leur ont aussi permis par le passé de venir en aide aux populations locales. Certaines vieilles liqueurs sont vendues à l'heure actuelle aux enchères à des prix hallucinants et cette spéculation choque les moines. Cet été, à Valoris, par une très chaude journée, nous avons été invités à déjeuner chez les parents d'Antoine, l'amoureux de notre fille aînée. À l'issue du délicieux repas, et parce que nous avions évoqué le célèbre breuvage, le père d'Antoine, véritable passionné, est allé chercher pas moins de 7 ou 8 liqueurs différentes. Il les a déposés sur la table et il nous a expliqué la composition et les vertus de chacune. Et pour la toute première fois de ma vie, j'ai goûté à l'une de ces liqueurs. En fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas été complètement séduite par le goût de cette boisson qui est vraiment très particulier et surprenant pour un palais profane comme le mien. Il était temps que je me plonge vraiment dans l'histoire du monastère auréolé de mystères. Et voici cette histoire. Professeur avant de devenir recteur de l'école cathédrale de Reims, Bruno le Chartreux est à l'apogée de sa célébrité quand il éprouve le désir de se consacrer entièrement à Dieu. Il renonce au monde et à ses honneurs et avec ses 6 compagnons part à côté de Grenoble, où ils s'établissent au cœur de la vallée sauvage de Chartreuse. Ils choisissent un désert, comme avant eux, les pères du désert, et également en souvenir de ces 40 jours que le Christ a vécu, retranché du monde, pour entrer en lui, sonder son âme et résister aux tentations. L'ordre va essaimer dans toute l'Europe. En 1257, répondant à l'appel de Saint-Louis, les moines chartreux fondent à Vauvert, en lisière de Paris, dans l'actuel jardin du Luxembourg, un monastère bientôt entouré de jardins et de pépinières. Les moines se passionnent pour l'art de la pharmacopée. Les chartreux côtoient le médecin et théologien Arnaud de Villeneuve et son élève, Raymond Lull, célèbres tous deux pour leurs études sur les plantes médicinales et pour avoir élaboré un nouveau médicament, l'eau de vie, obtenue après distillation du vin. C'est parce qu'ils ont réalisé plusieurs élixirs de jouvence qu'en 1605, le duc d'Estrée leur remet un document dont les origines demeurent toujours absolument mystérieuses. Le manuscrit contient une liste de plantes hétéroclites et quelques indications pour établir un élixir de longue vie. Une apothicairerie est construite dans l'enceinte du monastère et les recherches commencent. En dépit d'un travail acharné, les chartreux ne parviennent pas à obtenir l'élixir. Quand Don Michel Brunier de Larnage devient prieur de la Grande Chartreuse et général de l'ordre, en 1737, il demande que le manuscrit revienne à la maison mère. Les recherches de quatre frères aboutissent en 1764 à la rédaction d'un nouveau manuscrit intitulé « Composition de l'élixir de Chartreuse ». Les 7 pages du manuscrit retracent le procédé contenant 7 étapes successives. Au cours des 700 premières années de son existence, le monastère doit faire face à de nombreuses épreuves, parmi lesquelles une avalanche et pas moins de 8 incendies. En 1792, les chartreux doivent s'exiler. Tous leurs biens sont confisqués. En 1816, Louis XVIII autorise les chartreux à réintégrer leur monastère. À partir de 1825, les chartreux mettent en vente un nouvel élixir de table ou de santé. La liqueur s'élève à 60 degrés et semble aider à lutter contre l'épidémie de choléra qui ravage l'Europe. À cette époque, les moines fabriquent 300 litres d'élixir par an. En 1835, les moines parviennent à récupérer le manuscrit originel qui était entre les mains de la veuve d'un pharmacien, Pierre Lyotard, et finissent d'élaborer leur liqueur. En 1838, une liqueur de mélisse, caractérisée par sa couleur blanche, voit le jour, suivie en 1840 de la chartreuse jaune et enfin la chartreuse verte, nom donné à la liqueur de santé concoctée par les moines après de très très longues recherches. Le succès des liqueurs est rapide et les contrefaçons vont obliger les moines à déposer la marque et à apposer sur les bouteilles des étiquettes et des cachets portant la mention « liqueur fabriqué à la Grande Chartreuse », accompagnée de la signature de Don Louis Garnier. Le pape adresse une lettre au prieur en l'invitant à éloigner du monastère la fabrication des liqueurs pour lui conserver toutes ses dimensions spirituelles. La distillation, l'entrepôt et l'expédition sont alors délocalisées. Le monastère ne conserve que le dépôt des plantes aromatiques. En pleine crise de la séparation de l'Église de l'État, les moines sont expulsés par les soldats devant une population absolument révoltée par cette décision. Ils s'installent en Espagne, à Tarragone, dans une ancienne usine et filature de tissage que l'ordre avait acquise 20 ans auparavant. En France, le liquoriste Cusenier récupère les droits sur la marque et crée la compagnie fermière de la Grande Chartreuse pour gérer les installations. Il faudra plusieurs années aux chartreux pour qu'ils aient à nouveau tous les pouvoirs sur leur marque. En 1921, une nouvelle distillerie voit le jour à Marseille. En évoquant la liqueur dans son roman « Gatsby le Magnifique », Francis Scott Fitzgerald lui confère une reconnaissance exceptionnelle. En 1929, la société constituée par Cusenier fait faillite et les moines peuvent enfin récupérer la marque et relancer la production des liqueurs. Ils ne seront autorisés à se réinstaller au monastère qui se trouve à côté de Voiron qu'en 1940, et ce grâce à l'appui de Georges Mandel. Avec les Trente Glorieuses, la Chartreuse entre de plein pied dans la modernité, renouvelant son image et recourant à la publicité via la radio ou le cinéma. En 1963 est créée la Chartreuse, vieillissement exceptionnellement prolongé. La mythique liqueur VEP a pour spécificité d'avoir reposé non pas dans des foudres, mais des demi-muides. Chaque bouteille est numérotée avec son millésime de mise en bouteille. À cette époque, la liqueur s'associe à de grands événements comme le couronnement de la reine Élisabeth II, les JO d'hiver à Grenoble. Et jusqu'à la fin des années 1970, elle a aussi sa caravane publicitaire lors du Critérium cycliste du Dauphiné libéré. Dans les années 1970-1980, avec le slogan « Osez le vert vert », la Chartreuse étend sa gamme sous l'impulsion de Chartreuse Diffusion. Cette structure a été créée en 1970 pour la vente et la publicité. La liqueur se décline alors en Chartreuse Orange, Chartreuse Myrtille ou encore l'éphémère Chartreuse Framboise. Une édition spéciale est créée en 1976 pour le bicentenaire des États-Unis, alors même que le cocktail Swamp Water à base de jus d'ananas et de chartreuse verte connaît un succès incroyable outre-Atlantique. Mais cette belle histoire va connaître un arrêt brutal obligeant la marque à s'adapter à un monde en profonde mutation à partir de 1982. Au début des années 1981, les liqueurs de la Chartreuse subissent une crise majeure. Le Swamp Water, cocktail populaire aux États-Unis, n'est plus à la mode. L'univers du cocktail et les consommateurs imposent de nouveaux codes. En 1983, les ventes de Chartreuse verte ont s'effondré. Les augmentations successives des taxes et les réglementations sur les boissons alcoolisées ont fragilisé le marché français. Les chartreux n'ont plus de moyens publicitaires, mais ils ont déjà fait face à de nombreuses difficultés et ils savent prendre leur temps. En 20 ans, ils relèvent ce nouveau défi en remettant la marque en selle, pouvant s'appuyer sur une nouvelle équipe commerciale exclusive, une nouvelle clientèle et de nouveaux slogans. Si la marque reste célèbre, son goût, lui, l'est moins. Ils vont s'attacher à faire découvrir ou redécouvrir les liqueurs et vont puiser du côté des produits régionaux devenus tendance. Les chartreux, toujours très inventifs et réactifs, concoctent de nouvelles formules à l'image du Génépi des Pères Chartreux, véritable boisson montagnarde créée en 1984 et de la liqueur du 9e centenaire, la même année qui vient commémorer l'arrivée de Saint-Bruno en 1084. La nouvelle communication véhicule un message autour de la région, de la tradition, de la nature et du lieu de fabrication au cœur des Alpes françaises. Au milieu des années 1990, les ventes repartent à la hausse en France et les marchés étrangers sont un à un approchés de manière spécifique. Toujours capables d'explorer de nouvelles pistes, les chartreux rapatrient en France et commercialisent un stock important de vieilles bouteilles qui étaient restées à la distillerie de Tarragone, qui a été fermée en 1989. Une édition épiscopale est créée pour célébrer les 50 ans du retour officiel des chartreux en France. Malgré la fermeture de la mythique distillerie de Tarragone, l'Espagne demeure attachée très profondément à la liqueur. Une exposition sera même organisée en 1994, en hommage à la chartreuse devenue la boisson officielle des fêtes de Santa Tecla. Au passage de l'an 2000, les liqueurs chartreuse verte et chartreuse jaune, comme l'élixir et les séries spéciales, sont de retour dans l'imaginaire collectif des spiritueux. En 1999, une épiscopale d'un litre est lancée. Et en 2004, presque comme une sorte d'exercice de style, une épiscopale de 35 centilitres chromée devient l'incontournable des collectionneurs. Au XXIe siècle, la chartreuse est un des éléments majeurs de l'univers du cocktail aux quatre coins du monde et elle est à la carte des plus grandes tables. En 2008, c'est la naissance de la cuvée des meilleurs ouvriers de France, toujours fabriquée par les pères chartreux dans le plus grand secret, mais en collaboration avec les meilleurs ouvriers de France sommeliers. Non contente d'être tendance aux quatre coins du globe, la chartreuse se fait une place dans le monde des arts. Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Amélie Nothomb, Frank Zappa, Tom Waits, ou encore ZZ Top, qui édite en 2012 une chanson hommage au titre évocateur chartreuse. Alors bien sûr, hein, il faut le prononcer à la texane, ce que je ne suis pas sûre de savoir faire, en une sorte de chartreuse. Et ceci, cette chanson est imaginée après qu'ils aient redécouvert la liqueur au début de la décennie, à l'occasion du festival Musilac d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, si vous voulez, vous pourrez trouver sur YouTube la fameuse chanson. J'ai le lien aussi que j'ai inséré dans ma chronique sur le blog. Mesurant que les consommateurs se lassent vite, de nouvelles éditions de la liqueur sont créées, comme la série limitée Vert et Or, réservée uniquement à la ville de Voiron, en 2015, à l'occasion des fêtes de la Chartreuse, et en hommage à la ville, qui a accueilli la distillerie 80 ans plus tôt. Mais aussi une édition spéciale créée en 2017, assemblage de jaune et de verte, servant à la confection de la boisson officielle des fêtes de Tarragone, symbole d'un long siècle de collaboration entre la liqueur et la capitale de la Catalogne. En 2015, une cuvée exceptionnelle, tirée à seulement 240 exemplaires, la Une Chartreuse, et renouvelée chaque année, voit le jour. En 2019, c'est au tour de la liqueur du Foudre 147, qui vieillit encore dans la cave de Voiron et qui est vendue exclusivement dans la boutique Chartreuse de Voiron. Enfin, en 2021, le retour confidentiel des Chartreux en France comme distillateur un siècle plus tôt va être célébré par une série limitée, Marseille 1921-2021. Afin de répondre aux attentes de ce nouveau millénaire, la Chartreuse a inauguré le 30 août 2018 la distillerie d'Aigues Noires. Ce choix n'est pas anodin puisque ce terrain a été un lieu d'obédience des Chartreux à partir de 1618, où ils possédaient un moulin et une grange, une terre qui leur sera retirée à la Révolution française. Située au cœur du massif de la Chartreuse, elle constitue un véritable retour aux sources pour les moines. Pour rendre davantage visible cette identité multiple de la liqueur, une série de films de plusieurs épisodes intitulés « Saisons » propose depuis 2017 de découvrir les multiples facettes de la Chartreuse. Cette web-série aborde différents thèmes parmi lesquels le savoir-faire, la tradition, l'histoire, le monde du bar, la gastronomie ou encore l'esprit festif de la liqueur. Maintenant, vous savez presque tout sur la Chartreuse et l'ingéniosité des moines qui, depuis plus de 900 ans, n'ont eu de cesse de se réinventer en puisant dans les richesses infinies des plantes dont ils ont appris à percer les mystères et à composer avec les bienfaits. Quand, en 1605, les Chartreux ont commencé leurs recherches dans le but d'élaborer l'élixir de longue vie, ils avaient sélectionné 2000 plantes. La recette actuelle en compte plus de 130. La couleur verte est due à la chlorophylle, le jaune au safran. Le parchemin de 1605, à l'origine de la Chartreuse verte, est conservé dans un coffre fermé à double tour. Ce coffre est caché dans le monastère et sa clé est dans la possession du supérieur. Seuls deux moines sont autorisés à consulter le parchemin après en avoir fait la demande au père supérieur. Les secrets qui entourent la fabrication des liqueurs font vraiment penser au nom de la rose et au livre sur le rire dont les moines voulaient cacher l'existence et dont les pages étaient couvertes de poison. Même s'il est impossible de dresser la liste exhaustive des plantes entrant dans la composition de la chartreuse verte, on peut citer la lavande, la marjolaine, la mélisse, la sauge, le thym, la bétoine, la centaurée simple, la camille matricaire, ou matricère, l'armoise, les feuilles de cassis, la mélilo ou mélilote, je ne sais pas comment ça se prononce, le charbon béni, l'hysope. Notre maman l'a toujours dégusté dans un petit verre à la fin d'un repas en qualité de digestif. À l'heure où la désertification médicale gagne l'hexagone, les chartreux sont bien inspirés de revenir à l'utilisation des plantes comme moyen de soulager des maux simples du quotidien, migraines, courbatures, fièvre, douleurs de règles, infections, brûlures, mauvaise circulation du sang, tout. J'ai toujours soigné nos enfants quand ils toussaient avec un sirop composé de lierre, le Prospan. Ce sirop était efficace tant pour la toux sèche que grasse et les soulageait très vite. Il n'est plus produit, de même qu'un produit fabuleux contre les coups et les bosses, le contre-coup de l'abbé Perdrijon. Jusqu'à ce que l'industrie pharmaceutique nous inonde de ses médicaments chimiques encombrant les étagères de nos salles de bain, on se soignait avec des plantes, aux vertus médicinales. Ces plantes étaient déjà communes des médecines celtes et romaines. Les druides et les druidesses celtes employaient pas moins de 300 plantes pour soigner les malades. Au Moyen-Âge, dans les campagnes, ce sont les guérisseuses qui connaissent les plantes et transmettent leur savoir aux plus jeunes. Ainsi, elles leur apprennent à reconnaître les plantes, leurs fleurs, les feuillages, et à préparer les remèdes au fil des saisons. Les plantes ayant à la fois un versant blanc et un versant noir, la récolte était très ritualisée. Ainsi, le millepertuis, la sauge, la camomille et le lierre terrestre étaient des plantes guérisseuses si elles étaient récoltées au solstice d'été. S'agissant de la verveine, appelée herbe sacrée, mais également herbe aux sorcières, elle devait être récoltée avec prudence, car elle pouvait être porteuse de maléfices. On devait s'approcher de la plante à reculons et ne se retourner qu'au dernier moment et ne pas regarder la racine fraîchement arrachée des forces obscures de la terre car elle pouvait porter malheur. Les guérisseuses ne prélevaient qu'une petite partie des plantes de manière à ne pas fâcher la terre et à être certaine d'en trouver l'année suivante. Ce respect porté au monde végétal s'observe chez tous les peuples vivant encore en harmonie aujourd'hui avec leur environnement. Je ne l'ai pas encore terminé, mais le grand livre des guérisseuses de Clara Lemonnier, anthropologue, spécialiste des médecines alternatives et des questions de santé au féminin, est absolument passionnant. Il était glissé entre les mains de toutes celles et de tous ceux qui cherchent une autre manière de se soigner, tout en prenant garde à ne pas se laisser entraîner vers des dérives, comme celle qui fut récemment dénoncée et qui concernait la pratique de naturopathes qui s'était érigée en gourou. En 2022, les dérives sectaires dans le domaine de la santé représentaient près de 40% des signalements reçus, selon la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La vie monastique et le monde des plantes sont fascinants. Mon mari m'a proposé de m'offrir une formation diplômante de 2 ans en herboristerie. Depuis que nous vivons à la campagne, à chaque fois que nous marchons en montagne, je suis triste de me sentir aussi ignorante sur le monde végétal qui nous entoure. Cela me plairait beaucoup de cultiver des simples et de savoir les utiliser pour des maux ne nécessitant pas de consultation médicale. Au Pérou, au-dessus de Huaraz, notre guide de haute montagne nous avait expliqué comment les habitants continuaient de ramasser des plantes en quantité restreinte pour se soigner quand l'industrie pharmaceutique les pillait après avoir volé leur savoir. La pluie tombe généreusement ce matin sur le plateau. J'ai dû allumer la lumière de mon bureau parce qu'il fait trop sombre. Je pense que le chat ne va pas tarder à rentrer tout bouillé. Et alors, notre chat n'est pas noir. Hein. Et comme quoi, on peut être un peu sorcière et avoir un chat plutôt brun, avec des yeux un peu mordorés. Alors j'espère que cet épisode autour de ces moines chartreux, du secret qui entoure encore aujourd'hui la fabrication de la chartreuse verte, leur souhait de revenir à l'herboristerie, à la concoction, fabrication de tisanes et aussi de produits en lien avec la phytothérapie. J'espère que tout cela vous aura plu. Vous pouvez retrouver beaucoup de choses, bien sûr, en ligne. Je vous invite à vous promener sur le site de l'Ordre des Chartreux, qui est remarquablement bien fait, qui invite à la sérénité. Les photos sont magnifiques. Vous pouvez, bien sûr, lire le livre de Clara Lemonnier qui a été publié à l'Icodoclaste. Moi, j'en suis aux 3/4. Hein. Je pense que je serai amenée à nouveau à évoquer ces sujets dans d'autres épisodes. Je vais vous souhaiter maintenant de passer une bonne journée, une bonne nuit. si c'est le cas, de faire de beaux rêves. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Et petite précision, le texte de cet épisode est à lire, à redécouvrir dans le blog Hors Cadre. Voilà, à très bientôt.